Ok, donc on est à la page 50, page 50, 7e chapitre, 2e Mishnah. Amroulo, Nirtovget, Leishtecha. Donc là, la Mishnah va revenir sur un concept qu'on a expliqué à la fin du 6e chapitre, qui dit que, quand un homme, si un homme, il s'adresse à deux personnes, ou à trois personnes, et qu'il leur dit, écrivez et donnez un guet à ma femme, ou bien, même s'il leur a dit uniquement, donnez un guet à ma femme, on a dit que, ces deux témoins-là, c'est eux-mêmes qui doivent écrire le guet, et c'est eux-mêmes qui doivent signer le guet pour lui donner. Puisque, d'accord, la halakha était comme Rabbi Yossi, comme on a expliqué dans la Mishnah d'avant. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante maintenant. Amroulo, si on avait pas... On a un cas intéressant. Amroulo, si lui on dit... Donc on a quelqu'un qui est malade, mais que Baruch HaShem, il a encore tout son esprit. D'accord ? Ou bien, une personne qui va prendre la route. Et il rencontre deux personnes. Donc il y a deux personnes qui passent le voir. Et ces deux personnes lui posent une question. Amroulo, ils lui ont dit, Nirtov get leishtecha. Est-ce que tu veux qu'on écrive un get à ta femme? Voilà, par exemple, celui qui va prendre la route, et il sait qu'il risque de ne pas revenir, donc il ne veut pas que sa femme reste à Gouna. Donc on lui pose une question avant de prendre la route, on lui dit, est-ce qu'on écrit un get à ta femme? Zamar lahem. Et il leur a dit, que vous écrivez. Et qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que, on avait expliqué que normalement le mari doit leur dire explicitement donner. Mais on avait dit que quand c'est un cas de force majeure, comme ce cas-là, que là il va prendre la route et qu'après il va plus être avec nous, même si le mari a dit uniquement écrivez et n'a pas demandé de donner, on considère que c'est comme si qu'il a demandé de donner. Donc, rappelez-vous le cas de figure. Quelqu'un qui va prendre la route, il va prendre le bateau bientôt, et il y a deux personnes sur le port, il lui pose la question, il lui dit, est-ce qu'on écrit un guet à ta femme? Il dit, allez-y, écrivez. Amro la sofer vechatav. D'accord? Donc ils ont dit au sofer. Et le sofer l'a écrit. Mais c'est quoi le problème qui s'est passé? C'est que, non, on a dit que quand le mari, il leur dit, écrivez un guet, c'est eux qui doivent écrire le guet. Or là, ils n'ont pas écrit le guet, ils ont demandé à un sofer d'écrire. Regardez, ça va aller très très loin. Amro la sofer vechatav. Ils ont demandé au sofer d'écrire. Donc là, on a une première erreur. Et c'est la seule erreur qu'il y aura. Velaedim vechatmu. Ensuite, on a demandé aux témoins de signer. Afalpi shekatvu vechatmu venatanulo. Même si ils ont déjà écrit le guet, donc ils l'ont fait signer, et qu'ils ont donné le guet. Pas seulement ça. Vechazar mutanola. Deux mois plus tard, le mari revient. Et il demande, vous avez donné le guet à ma femme? On dit, oui, écoute, on l'a donné, mais on n'était pas très sûr parce que c'est pas nous qui l'avons écrit. Il reprend le guet et il donne à la femme. Sûr qu'il était d'accord. D'accord. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Arrêt à guet batel. Le guet est annulé. Pourquoi le guet est annulé? Parce que ce guet-là, comme le mari a demandé aux deux personnes, il leur a dit écrivez le guet et qu'ils ne l'ont pas écrit eux-mêmes, c'est zéro, ça vaut rien. Même si après lui-même il reprend ce papier, il
le
donne.
Et il le contresigne.
Ce papier, non, c'est fini. Ce papier, il faut refaire un autre. La kavana qu'il y a eu pendant ce papier n'est pas bonne. Achi Omar la sofer ktov velaedim chatomu. Pour que ça marche, Il faut que le mari dise explicitement au sofer écrit et au témoin signé. C'est très intéressant ce qu'on est en train de voir ici. D'accord? C'est-à-dire que la seule personne qu'on pourrait missionner pour écrire un guet, ce serait un beddin. Là, le beddin, le mari aurait le droit de dire au tribunal, je vous demande, d'accord, je vous donne procuration pour vous occuper de mon guet.
On a dit un beddin, ça va être trois personnes.
Oui. Mais un beddin, non. Là, je parle d'un beddin reconnu. D'accord. Mais si c'est pas un beddin, il faut que le mari dise explicitement à chacun qu'est-ce qu'il doit faire. Ça veut dire que si par exemple il dit à deux personnes « écrivez un guet à ma femme », il faut qu'ils écrivent le guet. On aurait pu dire « bon, écrivez, ça veut dire occupez-vous ». Non. Et pour le guet, c'est très très spécial. C'est beaucoup plus fort que pour le mariage. Alors, comme on l'a dit, ce qu'il y a de très fort dans cette Mishnah, c'est qu'après le mari revient, il reprend ce guet et il le redonne encore une fois. Ah, tu vas dire « attends, c'est sûr qu'il était derrière ». C'est pas bon. Puisque l'écriture du guet n'était pas avec la bonne kavana, donc c'est pas cachère.
Là, ce que les deux personnes ont dit, c'est est-ce qu'on doit t'écrire un guet? Mais s'ils lui ont dit, est-ce qu'on doit te faire écrire un guet?
Ah, là, c'est plus compliqué. Normalement, c'est pas bon. Parce que ça, c'est que le beddin qui peut faire. La procuration, ça veut dire que le mari peut demander à quelqu'un d'écrire le guet et de le signer. Mais il peut pas demander à quelqu'un de s'occuper d'écrire son guet. C'est plus compliqué, ça. Alors, il y a des cas dans lesquels tu t'en mis, mais ça, on verra par la suite. Mais c'est beaucoup plus... Normalement, ça marche pas. Hein. Voilà, le principe, c'est normalement, ça marche pas. Zegiter immati. Non, là, je suis à la Mishnah Gimel, troisième Mishnah. Zegiter immati. Donc, on avait appris à la fin de la première Mishnah on a dit que une personne qui dit à donc qui dit à des témoins, il leur dit donnez un guet à ma femme, donnez un guet à ma femme, ces témoins là vont écrire le guet, etc. Et le temps qu'ils donnent le guet, d'accord, donc ils vont, c'est eux-mêmes qui vont écrire le guet, c'est eux-mêmes qui vont signer, ils vont tout faire. Le temps qu'ils donnent le guet, le mari meurt. Crise cardiaque, Dieu préserve. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans la première Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Dans la première Mishnah, on a dit que, puisque au moment où ils vont donner le guet, le mari n'est plus de ce monde, donc est-ce que le guet est un bon guet? L'acte de divorce qui est bon, il n'est pas bon. Là maintenant, on a un cas particulier dans notre Mishnah. Zegiter immati. Un mari qui donne un guet à sa femme, et c'est très spécial comme guet. Il lui dit, c'est ton guet si je meurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de quitter sa femme. Mais, d'accord, c'est ton guet. Mais il veut que s'il meurt, elle soit dans le statut de divorcé. Pourquoi, par exemple, qu'elle doit se marier avec son frère ou quoi qu'il peut arriver. Écoutez bien ce qu'elle dit, c'est ton guet si je meurs. Ou bien, Zegiter immati mecholizé. Autre cas de figure, si le mari dit à sa femme, c'est ton guet si je meurs de cette maladie. Donc c'est le même style. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? C'est comme si qu'il avait dit Zegiter Lacharmita. C'est comme si qu'il avait dit c'est ton guet après ma mort. Est-ce qu'on peut donner un guet après sa mort?
Mais non.
On peut pas. Donc puisqu'il a dit c'est ton guet si je meurs, c'est-à-dire que pour que le guet marche, il faut qu'il meure. Or dès qu'il est mort, il ne peut plus divorcer. Donc ça marche pas. Même s'il a déjà donné le guet avant. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il a déjà donné le guet avant, puisque la condition ne pourra s'appliquer que après techniquement elle peut s'appliquer qu'après la mort du mari. Donc c'est pas valable. Parce qu'au moment où la condition va arriver, le mari n'est plus de ce monde, donc le divorce ne va plus se faire.
Si je gagne au loto, je peux divorcer. C'est possible?
Si. Ah, si c'est trop chaud ça, t'attends, va voir. C'est trop chaud.
Oui, tu peux. Fais tes mamies, chérie. Allez, barre-toi.
Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après, dans un cas comme ça, c'est-à-dire que le mari va donner un guet, mais il va mettre une condition. C'est, techniquement, cette condition, elle peut marcher. Ah, oui. C'est ton guet si j'ai gagné au loto. Mais, comme il dit M. Bispute, fais tes valises, et la femme dit, on y va? Non, tu t'en vas.
Tu vas chez ta mère. Donc on n'a pas le droit de conditionner le divorce.
Alors ça, techniquement, ce serait cachère. Mais le problème qu'on a, c'est qu'après, la femme a un statut très bizarre entre-temps. Parce qu'entre-temps, elle est moitié divorcée, moitié... Parce que bon, ça veut dire qu'elle a déjà donné le guet en main. Ça, on va voir dans la Mishnah suivante. Là, pour l'instant, on est dans le cas que le mari, il met une condition par rapport à sa mort. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Le Amarkloum, il n'a rien dit. Ça veut dire que s'il a dit c'est ton guet si je meurs, le guet il vaut rien du tout. Voilà. Parce que la condition va s'appliquer après sa mort, et après la mort on ne peut plus divorcer. Maintenant, si le mari, il a une autre formulation, tout est dans la formulation. S'il a dit à sa femme, Me'ayom immati, je te donne ce guet, d'accord, et c'est un guet qui sera valable depuis aujourd'hui, si je meurs. Là c'est différent.
Donc elle est divorcée depuis aujourd'hui.
Voilà. C'est-à-dire que là, le mari, en vérité, il lui dit, tu es divorcé depuis aujourd'hui, mais j'ai mis une condition. Il faut que je meure. Il faut que la personne meure. Et si la personne meurt, le guet démarre rétroactivement depuis la date à laquelle il a donné le guet.
D'accord.
Donc, Me'archav immati, c'est-à-dire que si le mari meurt, le guet démarra depuis aujourd'hui. Ou bien, oui, c'est rétroactif. Mais là, c'est pas comme avant. Parce qu'avant, le guet allait démarrer qu'après la mort du mari. Là, c'est autre chose. Là, il dit explicitement que le mari dit le jour où il va mourir, le guet démarrera depuis la date où il l'a donné. Ça peut être 10 ans avant.
Mais pendant ces 10 ans, elle reste sa femme.
Oui.
Avec tous ses droits.
Oui. Alors justement, là on aura une question. Là, parce
attends,
qu'on
quoi, là,
donc justement, on va voir quel statut aura cette femme pendant ces 10 ans.
Oui.
Ah oui, c'est compliqué.
Est-ce qu'elle devient une simple concubine? Est-ce que les enfants...
Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, etc.
Est-ce que
ça veut dire que les enfants qu'elle aura eu pendant ces 10 ans, rétroactivement, ils seront mamzer? On va savoir ce qui va se passer. Ça, on verra dans la Mishnah suivante. Tout s'est détaillé dans la Mishnah suivante. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Arez et guet. C'est un guet, il est cacher. D'accord? C'est un guet. Ça veut dire que s'il a dit, depuis aujourd'hui, tu seras divorcé si je meurs, c'est un guet, le guet est cachère. D'accord? Hazak.
Et merci encore.
Mais ayam ou la harmita, maintenant, on a un autre cas. Si le mari, il a une formulation un peu bizarre, il dit, c'est ton guet depuis aujourd'hui et après ma mort. Ça veut rien dire. Ou depuis aujourd'hui ou après ma mort. Alors, c'est quoi le problème qu'on a ici? C'est que puisqu'on n'est pas sûr ce que le mari voulait dire, donc, Areze get ve no get. C'est un get et c'est pas un get. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va devoir appliquer les chumrot des deux côtés. C'est-à-dire qu'on va faire comme si qu'elle était divorcée, on va faire comme si qu'elle n'est pas divorcée. La Mishnah explique.
Ils mettent. Pour le plus et le moins pour le moins.
Alors voilà, la Mishnah va expliquer. Ils mettent. Si le mari est mort sans laisser de descendance. Donc normalement, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit peut-être c'est un guet, peut-être c'est pas un guet. Donc si le mari est mort sans laisser de descendance et qu'il a un frère, normalement la femme doit se marier. Donc puisque on va se dire peut-être c'est pas un guet, et si c'est pas un guet, elle doit se marier avec ce yabam. D'accord ? Donc avec le frère de son mari. Mais d'un autre côté, si elle va se marier, peut-être que c'est pas un guet. Peut-être que c'était un guet, pardon. Et si c'est un guet, on n'a pas le droit de se marier avec la femme divorcée de son frère. Vous suivez ? Donc on a un problème ici.
Donc elle est plus droite.
Donc elle est bloquée. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ça qu'elle va faire seulement Khalitsa et pas Iboum. La Khalitsa, ça veut dire qu'on va faire donc la procédure de refus de se marier avec le frère, pour dire au cas où s'il y avait un guet, il n'y avait pas de guet, voilà, on a fait la Khalitsa, donc elle n'a plus rien à voir avec cette famille-là. D'accord ? Mais Iboum, elle ne peut pas se marier. Pourquoi ? Parce que peut-être que c'était un guet, et si c'était un guet, on n'a pas le droit de se marier avec la divorcée de son frère. Voilà. Ça, c'est un côté. Donc ça, c'est un exemple que la Mishnah nous amène pour nous montrer qu'est-ce que ça veut dire que la femme est divorcée et elle n'est pas divorcée. C'est-à-dire qu'en vérité, elle avait un statut très bizarre.
De toute façon, si elle avait fait le Yiboum,
oui.
La Khalitsa,
oui.
Le déchaussement, de toute façon, ça implique qu'elle ne l'épouse pas.
C'est sûr.
Puisqu'il refuse.
Voilà, donc Khalitsa, on fait. Khalitsa, on fait. Mais le problème, c'est que peut-être qu'ils veulent se marier.
Ah, quand même.
Ah bah oui. Pourquoi quand même ? Oui, elle veut se marier avec son frère.
Avec son beau-frère.
Va savoir, peut-être qu'elle a tué son mari. Ou... Vous qui aimez les...
Ah oui, on est en plein Agatha Christie, là.
Peut-être que la vie est empoisonnée.
Qui mieux qu'une femme vous qui aimez ces... Agatha Christie, vous dites, c'est quoi ? C'est roman policier ?
Ouais, une maître, entre guillemets, de la littérature policière, ouais. Qui te fait des trucs. Grave, ça me dit.
Bon, on vous a parlé.
Zegiter, Meayom, Immati, Mecholizé. Bon, maintenant, deuxième cas. Ok, encore un cas. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit au début de la Mishnah que si le mari dit à une femme, c'est ton guet, à sa femme, il lui dit, c'est ton guet, si je meurs de cette maladie. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'il n'a rien dit. Pourquoi ? Puisque le jour où il va mourir, c'est là que le guet va démarrer, mais il est déjà mort. Très bien, maintenant, écoutez le cas. Si un mari dit, Zegiter, Meayom, il dit à sa femme, c'est ton guet à partir d'aujourd'hui, immatim et cholisé si je meurs de cette maladie. Donc théoriquement, c'est bon. On est bien d'accord, bah oui. Parce qu'il a dit que le guet démarre depuis aujourd'hui. C'est quoi le problème ? Il était malade, effectivement. Il était malade, mais il était lucide. Entre-temps, Ve'amad, Baruch Hashem, il s'en sort.
Ah.
Il s'en sort.
Oui, c'est le...
Ve'iler Bachouk. Et regardez la définition qu'on donne pour quelqu'un qui s'en est vraiment sorti. Ça veut dire on l'a vu marcher au marché. Ça veut dire que c'est... Il a repris, d'accord, il a redémarré. C'est pas qu'il est resté alité. Vechala, et il retombe malade. Va mettre et il est mort.
Pas de bol, hein.
Bon, alors ce que le problème maintenant, c'est que la femme va dire, oui, en vérité, moi je pense que c'est lié à la première maladie. Et qu'est-ce que le mari avait dit ? Il avait dit, si je meurs de cette maladie, ton guet démarre depuis aujourd'hui. La femme a dit, oui, bah il est mort de la première maladie.
C'est-à-dire qu'il nous faut un médecin légiste maintenant.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ah, Omdim Otto. On va devoir l'évaluer. Donc ça veut dire que ce n'est pas les Hachamim qui vont le faire, c'est des médecins qui vont devoir le faire. Immechamat Roli Arishon Met. Si, donc comme le Rajba, le Ran, etc., plusieurs commentaires expliquent, ils disent qu'il y a souvent des maladies, une maladie qu'on peut attraper à un certain âge, qu'on croit qu'on va guérir, d'accord, on croit qu'on va guérir, on va se mettre à marcher, et qu'après, quelques mois plus tard, Dieu préserve, l'homme peut avoir une autre maladie, mais qui est en vérité issue de la maladie précédente. Je ne sais pas si on a des exemples modernes aujourd'hui. Une maladie, par exemple, voilà. Par exemple, quelqu'un qui a fait une maladie cardiaque.
D'accord ? Il préserve le sang.
Attendez, quelqu'un qui a une maladie cardiaque. D'accord ? Et il dit à sa femme, si je meurs de cette maladie, voilà ton gars depuis aujourd'hui. Il s'en sort, au Hachem, il marche. D'accord ? Et deux mois plus tard, il refait un autre arrêt cardiaque. Peut-être on peut dire, je ne sais pas si c'est comme ça dans la médecine, que le deuxième arrêt n'a pu venir seulement, ça veut dire n'a été fatal seulement à cause du fait qu'il y a eu le premier. Je sais pas comment ça marche. Est-ce que ça existe un constat comme ça ? Ça veut dire qu'il a été fatal que à cause qu'il était à la suite en premier.
Bien que c'était pas une maladie quand même. Un arrêt cardiaque, c'est pas une maladie.
C'était malade.
Non, par contre, on peut comparer le
sida.
Quelqu'un qui a une pneumonie.
Pourquoi c'est pas malade ?
C'est pas une maladie, un arrêt cardiaque.
Bah, il était malade, il était alité.
On dit c'est un accident vasculaire.
Oui.
Mais par exemple, le sida, qui est l'effondrement des barrières immunitaires.
C'est un autre exemple. Ouais.
Voilà, celui qui a une pneumonie, et il s'en sort très bien. Six mois plus tard, il chope ce sida-là. Eh bien, il ne peut plus se défendre contre cette pneumonie qui était en sommeil chez lui.
Donc c'est ça.
Elle revient, il ne peut pas se défendre. Ouais.
Donc, immechamat relia rishon. Très bien. Immechamat relia rishon met. Si on évalue qu'il est mort de la première maladie à Rezeguet, c'est un bon guet. D'accord ? Pourquoi ? Puisque la condition que le mari a donnée s'est accomplie. Le mari a dit, si je meurs de cette maladie, il est mort de cette maladie. Il n'est pas mort tout de suite, il est mort deux mois plus tard. Veim lav, mais si le médecin, pas forcément légiste, il lui dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux maladies, d'accord, il n'y a aucun rapport entre les deux maladies, que la deuxième maladie, ben, il a eu un accident, Dieu préserve. Aucun rapport, ça lui est tombé dessus. D'accord. Et nos guettes, dans ce cas-là, c'est pas un guette. Pourquoi ? Parce que la condition du mari ne s'est pas accomplie. Alors on arrive à la quatrième Mishnah. Quatrième Mishnah, donc c'est la suite directe de la troisième Mishnah. On parle de tous ces cas dans lesquels le mari il a donné un guet à sa femme avec une condition. Comme on l'a dit, par exemple, il lui a dit, c'est ton guet à partir d'aujourd'hui si je meurs. Bon. Alors maintenant, le mari va peut-être mourir 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 ans ? Ça, c'est la question qu'on a tous posée.
C'est comme une séparation de
qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 10 ans ? Parce que si imaginez-vous qu'elle a des enfants et qu'après au bout de 10 ans il va mourir et qu'on va dire que rétroactivement le guet a déjà démarré 10 ans plus tôt, parce que c'est la seule manière que le guet est bon. C'est la seule manière que le guet est bon, sinon le guet ne serait pas bon.
Donc c'est une femme divorcée.
Donc c'est une femme divorcée. D'accord ?
Une femme divorcée, elle ne peut pas s'isoler avec lui.
Qu'est-ce qu'on fait ? La question que je suis en train de me poser maintenant, c'est est-ce que le mari peut dire c'est mon guet à partir de une seconde avant ma mort si je meurs ?
Il est quand même spèce, le mec. Hein. Je te le dis tout de suite.
Qu'est-ce qu'il gagne, le gars qui fait ça ? Parce qu'il ne veut pas que la femme se remarie avec son frère.
Ouais. Non, ou bien, par exemple, imaginez-vous que sur un autre cas, imaginez-vous que, je sais pas moi, il a un patrimoine de 200 000 euros. Il s'est engagé sur la Ketouba à donner 200 000 euros à sa femme, tout son patrimoine. Et il a des enfants. Et il n'a pas envie de donner à ses enfants. Il n'a pas envie de donner rien du tout à ses enfants. Il est obligé de donner à ses enfants. Il n'a pas envie de donner à ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'arranger pour que sa femme soit divorcée avant qu'il meure. Comme ça, puisque la femme est divorcée, la ketouva de la femme passe toujours avant. Pourquoi elle passe avant ? Parce que la ketouva de la femme a été écrite avant la naissance des enfants. Donc, le contrat de la femme est plutôt... Le contrat de la femme, il prime. D'accord ? C'est comme ça. Aujourd'hui, en France aussi, il y a un système de... c'est le premier contrat, le contrat qui prime, qui passe avant. Donc, on peut avoir des tas de raisons pourquoi un mari veut divorcer sa femme. S'il meurt. Donc... Moi, bon, je sais pas, hein, la question que je vous ai posée, elle a si une seconde avant, je sais pas, il faudrait réfléchir. Peut-être oui, peut-être non, a priori oui, hein, pour cette fois, ça pose un problème.
Si il dit aujourd'hui, en fait, ça pose un problème qui fait bien traditionnel, il y a quelques semaines, il peut dire qu'il ne peut pas.
Peut-être oui, peut-être non, parce que la vérité, c'est que quand il dit à partir d'aujourd'hui, il y a une date sur le guet. Ça veut dire que c'est la date à laquelle le guet a été écrit, donc là, il y a quand même une certaine force. Mais de dire une seconde avant ma mort, c'est... Hein ? C'est un peu abstrait, on ne sait pas quand ça...
Dans la loi
c'est imprécis.
Un contrat pour plus tard, ça existe, ça ne marche pas.
Non, il ne fait pas... Attention.
Il ne fait pas signer pour...
Il ne fait pas un contrat pour plus tard.
Non, je parle de la...
Évidemment, ça s'existe.
Un exemple...
Pourquoi je me doute si ça marche, Julien ? Parce qu'on a vu que la raison pour laquelle ça ne marchait pas quand il a dit « c'est mon guet si je meurs »,« c'est ton guet si je meurs », c'est qu'on a dit parce qu'après la mort, on ne peut pas divorcer. Ça veut dire que ça, c'est le seul problème.
Alors que là, il est encore vivant.
Mais on n'a pas dit qu'il y a un autre problème à cause que la date est imprécise. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. J'ai situé un événement.
Il y a un doute ici, hein, ça fait ici. Non.
Le doute, c'est que, si je peux me permettre,
je sais pas.
Si tu dis le doute, ça, donc, si tu fixes une seconde avant ma mort,
ouais.
C'est-à-dire que tu vas dans le futur, or tu peux mourir tout de suite.
Oui, mais alors.
Donc c'est
compliqué. Ouais, moi la preuve que je dis, c'est qu'on a vu qu'avant, hein, quand on avait dit dans la Mishnah un mari qui dit à sa femme, il lui dit, c'est ton guet si je meurs. Pourquoi le guet n'était pas bon ? On a dit qu'une fois que la personne est morte, on ne peut plus divorcer. C'était ça le seul problème.
D'accord.
On n'a pas dit que le problème était parce que la date est imprécise.
S'il est mort,
ça veut dire qu'apparemment, l'imprécision de la date ne pose pas de problème.
Non, parce que si je peux me permettre, le deuxième exemple, tu as dit c'est ton guet à partir
non,
d'aujourd'hui
je pas de ce cas-là.
Si je meurs.
Bien
il
sûr.
A pas dit à partir
non,
de
je ne parle, pas de ce cas-là, je parle du premier cas qu'on a dit.
Ah, le premier cas, il n'y a pas de problème.
Le premier cas, on a dit que le guet n'était pas bon. Mais pourquoi le guet n'était pas bon ?
Parce qu'un mort, il ne peut pas finir.
Voilà.
Mort,
mais on n'a pas parlé du problème de l'imprécision de la date, qu'on ne sait pas quand il va mourir.
C'est un événement, c'est pas une date.
Je sais pas, c'est une question. Une question, il faudrait voir. Bon. Alors, donc, en tout cas, la question qu'on s'est tous posée, c'est si le mari dit à sa femme, c'est ton guet à partir d'aujourd'hui, si je meurs, Donc on a dit que ben, la femme, une fois qu'il meurt, elle sera divorcée, puisqu'on a, on a fait démarrer le guet rétroactivement depuis 10 ans plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette femme pendant ces 10 ans? L'otitiachadimo et la bifneedim. Cette femme-là que le mari a donné un guet qui va démarrer que plus tard, n'a pas le droit de se s'isoler avec son mari, seulement devant des témoins. D'accord? Seulement devant des témoins, pourquoi? Alors, pour deux raisons, Rachid nous donne deux raisons. Tout d'abord, première raison, c'est parce que si cette femme, alors, si cette femme sera divorcée par la suite, ça voudra dire que le mari aurait une des relations avec une femme qui n'est pas mariée, qui était sa femme, mais avec une femme qui n'est pas mariée, sans faire de kiddushin, sans se marier. Donc c'est un problème. C'est une première raison.
C'est un problème, mais ça n'invalide pas le guet.
Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il est encore marié avec elle, mais comme 10 ans plus tard, comme rétroactivement le guet, il va faire que 10 ans plus tard, on va dire qu'en vérité elle était divorcée 10 ans avant, donc ça voudrait dire qu'il aurait eu des relations avec une femme pnouya.
Oui, et il pourrait même avoir des enfants.
Mais les enfants, ils ne seront pas mamzer.
Ils
ne
seront pas mamzer, ils seront naturels.
Ils seront naturels, voilà. D'accord. Ça, c'est une première raison que Rachid donne. Deuxième raison que Rachid donne, peut-être que quand il aura des relations avec cette femme, il aura la kavana. Qu'il a des relations
avec sa femme vraie.
Oui, avec sa vraie femme. Il aura la kavana qu'il a que ses rôles. Parce que vous savez qu'une des méthodes pour marier une femme, on n'a plus le droit de le faire aujourd'hui, mais une des méthodes pour marier une femme, c'est avec des relations.
Bien sûr.
Donc il peut avoir la kavana qu'il est en train de re-épouser sa femme. Donc il faudrait un deuxième guet.
Bien sûr.
C'est pour ça que on dit que il a le droit de s'isoler avec sa femme que si elle est témoin. Après on va parler qui doit être témoin.
Il faut le guetter. Hein.
Afilou Evet, Afilou Shifra. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de deux témoins. Même un témoin, ça suffit. Afilou Evet, Afilou Shifra. Et même si ce témoin n'est pas un témoin qui est cachère, même si c'est un servant, ou c'est un serviteur, pardon, ou une servante. Bien que normalement, ils ne sont pas cachés en tant que témoins. Là, ils sont cachés parce qu'on dit qu'ils vont être gênés. Zerma. Alors, Rout Mishifrata. Sauf, d'accord, la seule personne qui ne peut pas être un bon guetteur, Rout Mishifrata, sauf de la servante de la femme. Pourquoi? Parce que chez Libo, Gazva Beshifrata. Parce que, comme on dit ici, que la femme n'est pas mal à l'aise. Ça veut dire qu'elle n'a rien à cacher de sa servante. Et elle n'aura pas peur de faire ce qu'elle voudra faire devant sa servante. Parce qu'elle dit de toutes les façons, j'ai rien à cacher. D'accord? Bon. Donc, en tout cas, ça veut dire qu'on a compris que pendant tout ce temps-là, la femme, là, c'est clair qu'elle a le droit d'avoir des relations avec son mari. Et elle n'a pas le droit de s'isoler, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas sur le même toit. Ils vivent sous le même toit que si on a une autre personne qui est avec eux. Ça peut être des enfants, ça peut être qui on veut. La seule personne qui est interdite, c'est la servante de la femme. Bon. Maintenant, la Mishnah pose la question. Maï bota maïmim. Quel est le statut de cette femme pendant ces jours-là, pendant ces 10 ans-là? Très spécial. Parce que le mari va bien mourir un jour. En plus, je vais aller alors, faire un peu de Agatha Christie, comme on dit. Statistiquement, les hommes, ils meurent avant les femmes.
Bien sûr.
Hein, d'accord. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait avec cette femme-là? C'est-à-dire, c'est sûr qu'on aura un problème. Depuis qu'elle a donné son guet, on sait qu'un jour le mari va mourir et que statistiquement, on aura un problème. Et que on devrait revenir 10 ans, 20 ans en arrière.
Ça dépend s'il a épousé une femme plus vieille que lui.
Alors attendez. Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme-là? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme-là? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Keshet Ish le Chol Dvaréa. Rabbi Yehuda dit, d'accord, que Keshet Ish le Chol Dvaréa, c'est bien qu'il n'a pas le droit de s'unir avec elle, mais ça ne change pas que tant que le mari n'est pas mort, la femme est considérée comme une femme mariée tout ce temps-là. C'est pas qu'on dit s'il y a un problème, on dit oui, bon, de toutes les façons, elle était à moitié mariée. Non. Tant qu'il n'y a pas eu la mort du mari, elle est mariée à 100%.
Ah ouais, mais alors,
Keshet Ish le Chol Dvaréa, ça veut dire quoi? Elle peut manger la Trouma. Par exemple, si elle est mariée avec un Kohen, elle peut manger la Terouma. Elle est vraiment comme si elle était mariée à 100%.
Mais donc, elle lui est permise.
Attendez, la seule chose qui est interdite, c'est les relations.
Ah bon?
Ouais. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Megoreshet, Veno Megareshet. Veno Megoreshet. Il dit non. Il dit un peu ce que M. Guinou vous avait dit tout à l'heure. Il dit que puisque à chaque instant, on ne sait pas, peut-être que maintenant le mari va mourir. Donc ça veut dire bien, même si c'est possible que statistiquement le mari va mourir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais c'est possible qu'il va mourir maintenant. On a un doute, toujours un doute, jamais on peut savoir quand on va mourir. Alors, donc Rabbi aussi, il a un avis intéressant, qui nous dit que Megoreshet Veena Megoreshet, elle est divorcée et elle n'est pas divorcée. Ça veut dire qu'elle a un statut. Ça veut dire qu'elle est à cheval, par exemple. Est-ce qu'elle peut manger la terouma si son mari est Cohen? Non. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va prendre toutes les chumrotes comme si qu'elle était divorcée.
Je suis quel avis alors?
Je ne sais pas. C'est pas écrit.
Ah, ici, il y a une Gemara, là.
Non, la Gemara, je l'ai pas eu, on est un Gittin.
Ouais, mais ici, il nous le donne, là.
Il est pourtant connu qu'il n'y a pas de divorce.
Quelle heure il est? Bon, ça reste pour aujourd'hui.